Vous écoutez
RMC.
Il est 8h. Très bon réveil, très belle journée à l'écoute d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouvel indicateur qui vire au rouge ce matin. C'est le taux de chômage qui augmente fortement et repasse la barre des 8% au premier trimestre de l'année. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas été aussi élevé. On va vous expliquer pourquoi. La consommation des carburants qui se casse la figure de 30% sur les 10 premiers jours du mois de mai. Ça, c'est ce que nous dit le gouvernement. Gouvernement en mode gestion de crise, hein, qui multiplie les réunions sur l'antivirus. Au moins 4 sont prévues aujourd'hui. Les chercheurs veulent d'ailleurs s'assurer que le virus n'a pas muté.
La guerre au Moyen-Orient est-elle en train de plomber l'économie? La question se pose ce matin avec les tout derniers chiffres du chômage.
Oui, taux de chômage qui atteint les 8,1% donc au premier trimestre de l'année. Il est fortement reparti à la hausse d'après les chiffres communiqués ce matin par l'INSEE. Il atteint même, Victor Joannin, en direct ce matin, son plus haut niveau depuis 5 ans.
Oui, avec 2,6 millions de personnes en recherche active d'emploi, c'est 68 000 de plus qu'au trimestre précédent. Et ce taux de chômage au-dessus de 8%, c'est en effet du jamais vu depuis début 2021, un seuil symbolique et inquiétant que le ministère du Travail invite à nuancer en expliquant que si le chômage progresse, c'est certes dû à une économie qui souffre, mais c'est aussi les effets de la loi Plein Emploi qui ajoute automatiquement dans les statistiques les jeunes et les bénéficiaires du RSA depuis un peu plus d'un an. Reste que toutes les catégories d'âge sont dans le rouge. Le taux de chômage des jeunes reste au-delà de 21% selon les statistiques de l'INSEE. Et au final, si on dézoome, le tableau n'est vraiment pas brillant puisqu'après une dizaine d'années de baisse de ce taux de chômage, on était parvenu à un point bas début 2023. Mais depuis plus d'un an, la courbe du nombre de chômeurs remonte inexorablement. Et cela devrait continuer au moins jusqu'à la fin de l'année à 8,3% selon les dernières prévisions des économistes de l'OFCE.
Plus d'un jeune sur cinq, donc, qui n'a pas de travail en France. C'était Victor Joannin en direct ce matin pour RMC. Alors, il y a une partie du pays qui sera à l'arrêt, là, toute la fin de semaine. Mais c'est en raison du pont de l'Ascension. C'est d'ailleurs une des journées les plus chargées de l'année qui commence ce matin sur la route, puisque pour la première fois de 2026, Bison Futé agite, comme on dit, le drapeau noir, qui est synonyme d'une circulation extrêmement difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes, et drapeau rouge pour le reste du pays. Beaucoup de monde, donc, malgré la flambée des prix à la pompe, et une tendance pourtant qui est à moins utiliser la voiture. Le gouvernement dit même que la consommation de carburant est en chute de 30% sur les 10 premiers jours du mois de mai. Vous confirmez pour RMC en région parisienne, Philippine Boulet.
Oui, comme ces deux automobilistes qui laissent de plus en plus souvent leur voiture au garage.
On fait beaucoup moins de trajets, oui. On évite tout. Tout ce qui est inutile.
On évite de sortir. Je travaille pas le dimanche. On pourrait essayer d'aller à droite à gauche, mais on ne le fait pas.
Enola a 19 ans et elle refuse de faire une croix sur ses loisirs.
Je sors moins. Si on sort, on groupe. On essaye de pas prendre trop de voitures.
Vous êtes mise au covoiturage.
C'est ça.
Cet été, elle le sait déjà, elle ne pourra pas partir dans le sud comme d'habitude.
Plutôt privilégié du coup, on va dire tout ce qui va être Vendée, Bretagne, ce qui est quand même beaucoup moins loin. Nous, on va être plutôt sur du 4 heures au lieu d'être sur du 6 ou 8 heures de route.
Pour Anaïs, c'est encore pire.
On part pas.
Elle va devoir passer l'été chez elle, avec ses enfants.
Ouais, c'est la première fois. D'habitude, on va sur la Vendée. Là, c'est trop cher. On a un jardin, donc on va profiter.
Et Anaïs n'est pas la seule. Selon un sondage Elab pour BFM TV, un tiers des Français ont abandonné l'idée de partir en vacances ou en week-end à cause de la flambée des prix du carburant.
Et alors, moins de carburant à acheter, c'est aussi moins de recettes fiscales pour l'État, reconnaît le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et à propos de la guerre au Moyen-Orient, dans ce contexte, tous les regards sont braqués ce matin vers la Chine. Pourquoi ? Parce que Donald Trump se rend en visite en Chine pour rencontrer le président chinois. Alors, Donald Trump répète que c'est son ami, mais le président chinois, lui, répète qu'il est hostile à la guerre. Il y a au moins 4 réunions du gouvernement qui sont prévues aujourd'hui et qui seront consacrées à l'antivirus. La première va commencer d'ailleurs dans moins d'une demi-heure, maintenant à 8h30 avec les soignants. La situation est sous contrôle, hein, répète Emmanuel Macron. Même discours du côté des scientifiques qui connaissent ce virus depuis 30 ans. Mais il y a quand même des analyses qui sont lancées là en ce moment. Un séquençage, comme on dit, un Solène Leroux en direct ce matin pour RMC, pour s'assurer en fait que le virus n'a pas muté avec cet épisode de contamination.
Oui, seul un séquençage partiel existe pour le moment. Et ce qu'il manque aux scientifiques, c'est une vision complète. La carte d'identité l'identité du virus, si vous voulez. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre de comprendre si ce virus est différent de l'épidémie d'antivirus de 2018 en Argentine, celle qui aiguille à ce stade toutes les décisions sanitaires. On cherche à savoir si c'est un variant et donc s'il est plus dangereux, plus contagieux ou au contraire s'il est exactement le même que celui que les scientifiques connaissent, à savoir un virus très mortel mais qui se transmet difficilement entre hommes. Les premières analyses vont en ce sens mais les chercheurs restent très prudents dans l'attente d'un séquençage complet. Il est en cours notamment à l'Institut Pasteur, centre de référence des maladies infectieuses. On l'attend dans les tout prochains jours.
Il est 8h04 sur RMC, on est mercredi, c'est aujourd'hui que sort au cinéma le film très attendu sur l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant décapité, chacun s'en souvient, en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, 11 jours après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet en salle de classe. Le film retrace d'ailleurs ces 11 jours-là, tourné dans le plus grand des secrets pour des raisons de sécurité. Il sera projeté ce soir, hors compétition, comme on dit, au Festival de Cannes qui vient de commencer, et des enseignants demandent même qu'il soit diffusé en cours d'éducation civique, diffusé donc à des élèves. La sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, qui a participé à l'écriture de ce film, y est favorable, elle le disait un petit peu plus tôt ce matin sur RMC.
Ce film a une vertu éducative indéniable et ceux qui le verront s'en rendront compte parfaitement. Donc j'aimerais effectivement que l'éducation nationale s'en empare. Je pense que le film L'Abandon a quelque part une forme de mission derrière elle, c'est-à-dire d'éveiller les consciences. Parce que en montrant les failles, les petites lâchetés, les moments où tout aurait pu basculer, c'est une sorte de miroir qui invite chacun donc à s'interroger sur ce que on aurait pu faire ou ce qu'on a laissé faire.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler comme Sophie l'a fait tout à l'heure, elle qui est enseignante dans le Loiret. Vous êtes peut-être professeur ou parent. Dites-nous si la mémoire de Samuel Paty vous accompagne aujourd'hui, si vous avez le sentiment que les choses ont changé, comment ça se passe pour vous au quotidien, enseignant en littérature, enseignant en histoire géo. Appelez-nous au 3216.
C'est la troisième journée de réquisition là qui va commencer ce mercredi au procès en appel de Nicolas Sarkozy à Paris. Vous savez qu'il est rejugé pour le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle 2007. C'est aujourd'hui que le parquet général doit annoncer les peines qu'il requiert à l'encontre de l'ancien président. On va peut-être vivre ce soir l'épilogue du championnat de Ligue 1 en football avec le choc entre Lens et Paris. Le premier qui se déplace chez le deuxième et un match nul suffit à Paris pour officiellement être champion, Arthur Perrault.
Oui, au stade Bollaert, Paris peut soulever son 14e trophée de Ligue 1. Pour cela, le club de la capitale ne doit pas perdre ce soir contre Lens, l'équipe qui le talonne depuis le début de saison. L'entraîneur parisien, Luis Enrique.
Je pense que c'est une fête pour le football français. Ce qu'on va chercher, c'est profiter d'un match de très haut niveau contre une équipe de Champions League. Félicitations à le coach Pierre Sage pour la manière dont leur équipe joue.
Leader du classement avec 6 points d'avance sur le club nordiste, Paris doit finir le travail tout en évitant de nouveaux pépins physiques à 2 semaines de la finale de la Ligue des Champions. L'attaquant Désiré Doué.
Ouais, c'est une très belle équipe Lens, mais je pense qu'on n'a rien à voir. Une finale de Ligue des Champions, c'est vraiment à part. Tous les matchs qu'on a joués cette saison, il n'y en aura pas un qui lui ressemblera, je pense. C'est la Ligue 1, c'est contre Lens, faudrait être très sérieux. C'est une très belle équipe aussi, on les félicite parce qu'ils ont fait une saison, faudra aller là-bas et gagner.
Le PSG ne s'est plus incliné à Lens depuis le 1er janvier 2023.
Et puis le foot, c'est aussi cette nouvelle passe d'armes entre Kylian Mbappé et le Rassemblement National à un mois seulement de la Coupe du Monde. Comme il y a 2 ans, souvenez-vous, pendant l'Euro, quand plusieurs bleus avaient pris position contre le RN, ça tombait au moment des élections législatives, de la dissolution. Kylian Mbappé recommence dans une longue interview à la presse américaine. Il dit qu'il, je cite, « sait ce qui pourrait arriver si ces gens-là prennent le pouvoir ». Eh bien, après Jordan Bardella, c'est Marine Le Pen qui lui répond ce matin et le chambre en lui rappelant que le PSG a gagné la Ligue des Champions une fois qu'il en était parti.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à
Emmanuel, la cagnotte des recettes fiscales amenée par la hausse des prix des carburants a fondu comme neige au soleil.
Absolument Apolline. Alors il faut rappeler que dans le prix d'un litre de carburant, il y a environ la moitié de taxes. 2 taxes exactement. L'assise, son montant est fixe par litre, quel que soit le prix des carburants. Et puis il y a la TVA qui, elle, est proportionnelle au prix des carburants. Alors dans un premier temps, la guerre en Iran a provoqué une hausse des rentrées fiscales, parce que malgré l'envolée des prix, les Français ont acheté beaucoup plus de carburant. Donc l'État avait le beurre et l'argent du beurre, il gagnait plus sur les deux taxes, 190 millions au total sur la période mars-avril. Sauf que depuis, eh bien, les prix ont moins augmenté au détriment des recettes de TVA et la consommation de carburant, elle, a chuté de plus de 30%. On l'a vu dans le journal. Et donc l'effet baisse des volumes l'a emporté très largement sur l'effet prix. Résultat, sur les 10 premiers jours de mai, les recettes liées au carburant reculent d'environ 300 millions d'euros sur un an. Ça veut dire que depuis le début de la guerre, finalement, il n'y a pas de cagnotte, mais au contraire, un manque à gagner d'une centaine de millions d'euros pour les recettes.
Alors, cette fameuse cagnotte fiscale qui a donc fondu, elle était censée pourtant financer les nouvelles aides.
Et oui, et le gouvernement se retrouve pris dans un terrible effet de ciseau, accroché à son quoi qu'il n'en coûte rien. Donc, on l'a dit, déjà plus de 100 millions de pertes de recettes fiscales, pas loin de 400 millions d'euros d'aides déjà annoncées pour les professions en difficulté et les Français modestes gros rouleurs. Le problème, c'est que le gouvernement nous avait promis de changer d'échelle et donc d'annoncer des nouvelles mesures la semaine prochaine. Pour le moment, ces mesures semblent retardées, mais la pression va se faire de plus en plus forte, surtout que la conjoncture se dégrade. On l'a vu avec la publication ce matin des chiffres définitifs du chômage pour le premier trimestre. On repasse au-dessus des 8% de taux de chômage pour la première fois depuis 2021.
Emmanuel, les prix du jour.
Les prix du jour. Le gazole, 2,15 €. On est au plus bas depuis le 23 mars. Ça fait quand même presque deux mois, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le samplon, 95, légère détente aussi, mais on reste quand même toujours au-dessus de 2 € le litre, 2,02 €. Le pétrole, ça remonte cette nuit. Il faut retenir qu'en fait, on a gagné 5 $ en 3 jours, mais qu'on est toujours au-dessus des 100 $, et le gaz est stable depuis deux semaines, 46 € le mégawatt.
C'était Emmanuel Le Chypre, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant sur RMC, Arnaud Demanche va nous rejoindre pour nous faire rire à 8h30. Notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Jean-Paul Paloméros. Quelles sont les options qui restent à Donald Trump? Les options diplomatiques semblent s'amenuire. Les négociations patinent. Est-ce que la réponse sera militaire? On en parle évidemment à 8h30. Juste après, il y aura face à Canteloup. Tous les matins, Nicolas Canteloup en direct à 8h50 sur RMC. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais oui.
C'est tous les jours qu'il est avec nous. Il est 8h14 sur RMC et il est là, Arnaud de Manche.
Oh oui, bonjour les amis. Bonjour Apolline. Très heureux de tous vous retrouver pour une chronique apaisante et parfumée.
Oui.
On a besoin de se détendre en ce moment.
Oui.
C'est une rubrique qui est de l'huile de monoï pour l'esprit. C'est un massage aux pierres chaudes pour le mental. Je suis votre huile de jojoba du cerveau, les amis. Et je suis très content. On est toujours un peu tendu avec le hantavirus. Alors, je me suis renseigné. Le patient zéro, quel est-il? Attention, tout est vrai. C'est un ornithologue néerlandais qui a choisi d'exploser son bilan carbone pour aller prendre des photos de zozio dans une déchetterie en Argentine au milieu des détritus.
Oui,
authentique.
C'est tout à fait juste.
Et l'article sur la déchetterie en question dit « Le site est évité comme la peste par les locaux ». Voilà. Éviter comme la peste, il y avait un indice, merde! Bravo gros malin, bravo Alain Bougrain d'Hambourg, très bien, on t'applaudit bien fort, t'es bien content hein, maintenant t'es mort! Remarque, de là-haut tu dois bien les voir les oiseaux, tu dois être ravi. Non excusez-moi, je suis un peu remonté, mais à cause d'un boomer cradingue, on est reparti pour une pandémie, avec des tas d'implications économiques, bien sûr, évidemment. Pour le savoir, je me suis branché sur BFM Business, où j'ai retrouvé Edwige Chevrillon et Emmanuel Luchy.
Banquier, bonjour. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Momoun.
Bonjour à vous. Alors Emmanuel, le virus va-t-il impacter nos portefeuilles?
Oui, mais en bien. Regarde Edwige, j'ai acheté une maison en viager. Voilà, on va pas se faire avoir comme il y a 6 ans. Regarde les photos. Une fois que la vieille aura cané du hantavirus, on casse là, on casse ici, on installe des miroirs au plafond. et c'est parti pour des week-ends caliente et barbecue.
Oh, chou minou. Et ça, c'est quoi dans la chambre?
C'est une balançoire.
Oh, vivement une grosse épidémie. Si on jouait au docteur, viens me vacciner. Je serais ton cas contact.
Mais pour l'instant, quand même, les gens le vivent
bien. Oui, les gens le vivent bien. Les gens le vivent très, très, très bien. Boris Vallot quitte sans transition hein, la direction du Parti socialiste en raison de désaccords avec Olivier Faure.
Rien ne nous sera épargné cette semaine, hein. On aura tout pris. Boris Vallot, il quitte la direction du PS avec tous ses lieutenants. Donald Trump a immédiatement appelé un cessez-le-feu. Il a dit, ça suffit, j'envoie un porte-avions au large de la rue de Solferino et laser, bing, 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 il n'y a plus rien.
Ce sont laser, bing, 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 bing. Ce sont ses propos,
ce sont les vrais propos de Donald Trump. Bing, bing, bing. Bref, le PS se divise. C'est fou, on dirait un atome. C'est déjà petit, mais tu peux encore le séparer en deux. Ça ne va pas faire des semaines sur BFM, ça. Hein. Et nous quittons le Détroit d'Ormuz. Priorité au direct pour le siège du PS où c'est la guerre ouverte. Général Desportes.
Eh bien, les troupes d'Olivier Faure se battent contre celles de Boris Vallot. Il faut s'attendre à une défaite rapide.
Oui, de qui?
Des deux, hein, c'est le PS. Hein, les deux, ils sont capables.
Alors hier, c'était l'ouverture du Festival de Cannes.
Oui, et Charles Alloncle, le rapporteur de la Commission sur le service public, est déjà caché dans les buissons, sur la croisette, en duplex sur CNews.
Pascal.
Oui, Charles, mon petit, c'est à vous.
Eh ben, il y a Patrick Cohen. Eh ben, je l'ai vu, il est là pour c'est à vous. Et là, il a été au restaurant et il a pris entrée plat dessert. Voilà. Et ça, c'est avec nos sous. C'est le sous des Français.
Mais vous avez raison, Charles, mais il a raison. Quelle honte. Est-ce que les Français ont les moyens de payer les tomates mozza de Monsieur Cohen? Quelle hypocrisie, d'ailleurs. Un plat italien, alors que ce monsieur passe son temps à attaquer Giorgia Meloni.
C'est vrai que la tomate mozza, c'est devenu politique.
Je peux y aller, Pascal, parce que là, je dois escalader le mur du Martinez pour vérifier que Laurent Delahousse, il tape pas dans le minibar.
Mais oui, mais vous savez, vous faites du bon travail à l'oncle. Vous savez, j'ai eu Vincent Bolloré, il est très content de vous.
Mais c'est normal, mon maître. Je dois protéger le précieux argent public. Mon précieux. France 4 meurt. France 5 meurt. Stupide bolchevique joufflu. Hein, Patrick Cohen? Tue-le. Ils vont tous mourir s'ils touchent à mon précieux, précieux argent public. Il faut privatiser. Tout donner à Vincent. Le maître veut France Inter.
Et on va le retrouver en slip sur la plage de la Croisette, accroupi au bord de la mer en train de manger un poisson cru.
Il faut donner France Télévision au maître.
Excusez-moi, jeune enfant. Savez-vous où est projeté le film? Où est projeté le film de mon ami Christophe Ruggia?
Qui es-tu, stupide socialiste permanente?
Je suis le ministre de la culture. Enfin, j'étais ministre de la culture. Je m'appelle Jack et j'ai plein d'amis ici. Savez-vous si Harvey Weinstein va venir? Je l'ai rencontré chez Woody Allen avec Gérard Depardieu, Gabriel Mazneff et Patrick Bruel. D'ailleurs, si vous voulez venir à la prochaine soirée, vous êtes invités. Mais ben, c'est plus Festival de Cannes, là, c'est Faites Entrer l'Accusé. Allez, à demain.
Et gros bisous, ma précieuse.
Je m'appelle Jacques. Merci beaucoup, Arnaud Demange, que l'on retrouve évidemment à tout moment, évidemment, en podcast et en tournée à Aix-en-Provence, à Épinal, à Genève, au Garric, à Gaillac, à Morières-les-Avignons ou encore à Paris, au solo.
Demain.
C'est demain, ouais. Et c'est un spectacle RMC. Il est 8h19. Il y a Frédéric qui est avec nous en direct depuis ici, les Moulineaux, dans la région parisienne. Bonjour Frédéric.
Bonjour Apolline, c'est un plaisir de vous parler. Depuis le temps que je vous écoute, puis bonjour à Mathieu et bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
Eh ben, tout le monde vous salue. Salut, soyez le bienvenu, Frédéric. Merci, Frédéric, vous êtes gentil. Cuisinier, je crois.
Oui,
et,
c'est
vous,
ça.
Et vous vouliez réagir à l'antivirus. Vous faites partie des gens qui, quand même, ne sont pas ultra rassurés.
Non, c'est pas que je suis pas ultra rassuré, mais je crois qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé vis-à-vis du Covid. Je comprends pas pourquoi on n'a pas laissé tous les gens sur le bateau en attendant les 42 jours ou les 6 semaines, comme ils disent les médecins, et puis plutôt que de les dispatcher en Australie, aux États-Unis, en Europe, etc. On n'a rien compris en fin de compte.
Effectivement, ils étaient tous sur un bateau. Alors, du point de vue médical, effectivement, tout le monde vous dit que ça aurait permis, en quelque sorte, de circonscrire le virus, parce que un bateau, c'est comme une île, ça permet effectivement de contrôler qui rentre, qui sort. Après, le patron de l'OMS disait, oui, mais le problème, c'est que si vous faites ça, d'abord, c'est quand même pour leur santé mentale assez dur. Et puis, il fallait les soigner. Vous voyez bien que la femme, qui est d'ailleurs atteinte, bon. Nous, on avait les moyens d'envoyer un bateau militaire, mais je suis pas sûr que pour les autres pays, ils auraient accepté le système. On a vu que c'était assez compliqué, Frédéric.
Oui, mais en fin de compte, le patron de l'OMS, il est bien gentil, mais il nous avait dit au début avec le Covid qu'il y avait rien à craindre, etc.
C'est pas faux.
On a vu le résultat. On a vu le résultat. Hein.
C'est pas faux.
Donc moi, j'ai plus du tout confiance en l'OMS ni. Au président de la République qui dit tout est sous contrôle, machin. Il y a même Juvin qui est venu chez vous ce matin qui a dit qu'on n'était pas sûr d'avoir les masques, etc. Donc,
Philippe Juvin qui pointait la question aussi du si nous devions à nouveau avoir un quoi qu'il en coûte. Bon, il dit si vraiment il y avait péril en demain, on le ferait, mais on le voit bien aussi avec la question d'ailleurs du carburant. C'est la réponse qu'apporte toujours le gouvernement, c'est qu'on n'a plus de sous, et on l'a appris encore ce matin d'ailleurs, le chômage remonte et ça ne va pas arranger leurs affaires. Merci infiniment Frédéric, d'être passé de ce côté-là du 32-16, alors Frédéric, d'avoir osé pousser la porte.
Non, c'est même pas ça, c'est que je vais aller faire mes courses et je vais aller acheter des fruits et légumes, ça va me faire du bien.
Ah voilà, c'est très bien. Frédéric, vous faites quoi à déjeuner aujourd'hui?
Aujourd'hui, je pense que je vais faire un chili con carne.
Un chili con carne, mais c'est toujours bien ça, un bon classique. Merci beaucoup Frédéric d'avoir appelé au 32-16. Frédéric qui est cuisinier donc à Issy-les-Moulineaux. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, je file côté BFM TV avec cette question. Est-ce qu'il reste des options à Donald Trump? Du côté des négociations, ça semble patiner. La réponse sera-t-elle militaire? Mon invité, c'est le général Jean-Paul Paloméros. Et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadoudine.
L'antivirus ne circule pas en France, c'est ce qu'assure la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui organise une réunion avec tous les soignants de France dans une heure. Elle rencontrera aussi les députés et les représentants de nos voisins européens aujourd'hui. Les 22 cas contacts français identifiés sont à l'isolement à l'hôpital, tout comme les 5 ex-croisiéristes dont la femme testée positive. Elle se trouve ce matin dans un état grave. Le chômage à son niveau le plus haut en 5 ans. 8,1% de la population française sans emploi au premier trimestre de cette année, soit une hausse de 0,7% sur un an, selon l'INSEE. Les sénateurs ne veulent décidément pas d'un droit à l'aide à mourir. Ils viennent de rejeter pour la deuxième fois la proposition de loi. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, appelle à un référendum. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Le texte doit maintenant être examiné par les députés. La météo, c'est le retour des averses ce matin sur les côtes de la Manche. Cet après-midi, on retrouvera aussi de la pluie. Pluie orageuse au nord de la Loire et sur les Pyrénées. Sur le reste de la moitié sud, ce sera plus calme avec toujours du vent près de la Méditerranée. Les températures, elles continuent de baisser. Cet après-midi, on sera entre 3 et 5 degrés sous les normales de saison. 14 degrés à Brest ou encore Lille, 16 à Rennes, Dijon et Paris, 18 degrés à Bordeaux et Limoges, 22 pour Bastia, 23 la maximale, ce sera pour Montpellier. Et puis, pic de fraîcheur à attendre vendredi. Le temps sera bien agité ce week-end.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour général Jean-Paul Paloméros.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême de l'OTAN. Écoutez, bouh, boum, bye bye, bye bye fast boat, boum, laser, bing bing, gun. Ça, c'est les dernières déclarations, là, dans les dernières heures, faites par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Est-ce que c'est ça la guerre? Et je vous évite les petits symboles à côté et le nombre de points d'exclamation et les mots en gros. Boum, c'est ça la guerre?
Non, bien sûr que non. Mais c'est une manifestation du mélange qui est très, très préoccupant du virtuel et du réel dans nos vies. Ça fait longtemps que je réfléchis à ces sujets-là parce que je pense que le virtuel a envahi nos vies et bon, c'est compréhensible, c'est ainsi. Mais il impacte y compris la politique, les jeunes. Je pense qu'on est en train de découvrir que cette dualité, la personnalité avec une sorte de jumeau numérique permanent, est très déstabilisant.
Et on le voit bien.
Y compris pour certains hommes politiques.
Et on le voit bien, effectivement, il y a les décisions dans le monde réel et Donald Trump a montré qu'il était capable d'en prendre. Et puis, il y a effectivement ce récit permanent qui, à un moment, font penser à ceux qui crient toujours au loup. Et lorsque le loup est là, on ne les croit plus. Est-ce que vous prenez au sérieux les toutes dernières déclarations de Donald Trump? Et j'ai même envie de vous dire, est-ce que les Iraniens les prennent au sérieux?
Les Iraniens, eux, ils suivent leur ligne. Ils sont pas du tout dans le monde virtuel. Ils ont tué des dizaines de milliers de leurs concitoyens, si je puis les appeler comme ça. Et ils savent très bien que depuis 47 ans, ce régime autocratique, kleptocratique, théocratique, sous certains aspects, ne survit que par la réalité de la terreur qu'il inspire à son peuple. Et maintenant, à une bonne partie du monde, enfin, déjà dans son environnement, mais avec des impacts qui sont mondiaux. Donc là, il n'y a plus d'alternative. On va en reparler sans doute, mais je crois que les Européens commencent à prendre vraiment la mesure de ce qui est en train de se passer. Et là, on n'est pas du tout dans le monde virtuel.
Alors justement, dans le monde réel, il y a effectivement la question des options qui restent sur la table. Bien sûr. Du côté des négociations, on va y revenir, mais ça semble au point mort, voire même dans une sorte d'impasse. Sur le terrain, en revanche, on le voit bien, le cessez-le-feu, Donald Trump a d'ailleurs eu cette expression, il dit il est sous assistance respiratoire. Dans la réalité du détroit d'Ormuz, il y a cette présence désormais, y compris de nos propres capacités, hein, on va y revenir, mais le Charles de Gaulle est en approche, il n'est qu'à 48 heures s'il fallait d'être sur la zone. On a appris ce matin la présence d'un deuxième sous-marin nucléaire américain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce déploiement et sur la volonté de le faire savoir?
C'est légitime. Si on veut inspirer non seulement le doute, mais la crainte chez le pouvoir iranien, et ça ne va pas être simple, hein, il faut effectivement faire savoir qu'on est là. On n'est pas obligé de dire où on est. Hein, et souhaitons que les positions restent relativement confidentielles. Pour tout le monde, évidemment. On sent la montée en puissance de quelque chose, et en particulier du côté des Européens. Vous savez qu'il y a 40 pays qui se sont réunis hier, à l'instar, sous l'égide de la Grande-Bretagne d'un côté, de la France de l'autre, pour se poser les bonnes questions et commencer à agir.
Il y a un détroit. La fameuse coalition.
Voilà. Et qui va se prépositionner. Alors, certains diront, oui, mais ils veulent pas faire la guerre. OK. Mais c'est une première étape de prise de conscience de la réalité de ce qu'est aujourd'hui la guerre en Iran et de ses conséquences.
Ça veut dire que pour vous, cette guerre, désormais, tout le monde est parfaitement lucide sur le fait que ce n'est pas notre guerre, mais ça le devient.
D'une manière ou d'une autre, oui. On comprend ce que vous voulez dire, c'est pas notre guerre, on veut pas aller attaquer l'Iran. Mais maintenant, on est devant une alternative qui est terrible. Il faut regarder les choses en face, et ça non plus, c'est pas du virtuel. Soit on admet que l'Iran devienne plus ou moins la puissance régionale, qu'elle inspire effectivement, qu'elle continue à inspirer la terreur, non seulement à son peuple, mais aux pays du Golfe et bien au-delà. Et bien au-delà. Et maintenant, il commence à avoir des moyens qui portent loin, missiles balistiques en particulier.
Qui se sont reconstitués. Hein.
Bien entendu. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs l'analyse des services de renseignement qui un jour vous disent, bon, américain, il y a 40% des missiles, le lendemain c'est 70%, enfin personne n'en sait rien, mais il y en a suffisamment pour inspirer la terreur. Donc soit on admet que dans les années à venir, et ça va durer longtemps, a priori, si on n'y fait rien, ce régime continue, il inspire la terreur, il contrôle en particulier ce nœud de passage, de transit de l'économie mondiale qu'est le détroit d'Ormuz, et il progressivement, il acquiert plus ou moins une capacité nucléaire, parce que ça se terminera comme ça, qu'on le veuille ou non. Ou alors on dit, non, stop. Stop cet état n'est plus un état acceptable.
Mais ça veut dire, Général, qu'au fond, ce que vous dites, c'est qu'une fois que cette guerre a été commencée, il est d'autant plus coupable de la terminer, pardon de le dire, mais en autre boudin. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si on est en paix, si on est en guerre, si on est en début de cessez-le-feu ou en fin de cessez-le-feu. On ne sait plus quelles sont les options de sortie. Et d'ailleurs, si on en sortira réellement.
Ce qui est sûr, c'est que faire la guerre sans faire la guerre, c'est pas possible. On peut, un chef d'état-major des armées avait dit faire la guerre avant la guerre, ça c'est intéressant parce qu'il faut s'y préparer et donc anticiper tout ces scénarios si vous voulez. Mais oui, je crois que l'heure de vérité quand même va s'approcher au fur et à mesure que les conséquences de ce qui est en train de se passer, en particulier dans le détroit d'Ormuz et d'une manière plus générale dans la région, vont se faire sentir. On voit bien les attitudes des Émiriens qui commencent vraiment à prendre leur sort entre leurs mains. Et je crois que c'est un bon exemple. On voit bien les Européens qui s'interrogent hier encore, une réunion des ministres de la Défense, qui s'interrogent sur l'application de l'article 42.7.
Personne n'avait... Alors, est-ce qu'on peut nous préciser cela ?
Eh bien, 42.7, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'article 5 pour l'OTAN, la défense collective.
L'article 5, c'est pour les Nations Unies. C'est pour l'Alliance Atlantique.
Et de l'autre côté, on a ce 42.7 qui était un peu passé sous silence parce qu'on se disait, les Européens, ils ont inscrit ça dans le traité de Lisbonne. C'est bien. Il est aussi engageant que l'article 5 de l'OTAN. Et vous avez quand même 23 pays de l'Union Européenne qui sont liés à la fois par l'article 5 de l'OTAN et par le 42.7. Et hier, Maria Callas, elle a réuni les ministres des Affaires de la Défense pour réfléchir à l'application de cet article. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est maintenant.
Ça veut dire que l'Europe prend son destin en main, en quelque sorte. Ça veut dire aussi, Jean-Paul Palomeros, vous l'évoquiez, que les Émirats arabes unis ne subissent plus, puisqu'ils ont décidé, et on l'a appris hier, de riposter, à proprement parler, de se réarmer eux aussi face à l'Iran. Il y a aussi la question d'un certain nombre de pays du Golfe qui considèrent désormais, c'est ce que dit le Qatar, c'est ce que dit même Bahreïn, que l'Iran essaye de les infiltrer, essaye de déstabiliser aussi ces pays-là. Est-ce qu'au fond, on est dans un point de bascule où les pays du Golfe qui sont pris en tenaille pourraient devenir eux-mêmes acteurs contre l'Iran?
Les pays du Golfe, malheureusement, ils connaissent leur vulnérabilité. Ils ont pu l'apprécier au rythme de cette guerre. Ils ne s'attendaient pas du tout à être frappés aussi durement et d'une manière préventive, pratiquement, dès les premières frappes. Il n'y a pas eu d'alarme, il n'y a pas eu d'alerte. Les Iraniens, eux, ils sont rentrés dedans sans coup férir, si vous voulez. Donc, pour eux, ils sont dans cette phase où soit ils osent, soit ils n'osent pas. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, si la guerre redémarre, ce qui est probable, on peut le penser, ils seront en première ligne.
Au moment où l'on se parle, pour vous, l'option militaire reste celle qui va sans doute être activée. Je voudrais vous donner les mots que Donald Trump a prononcés juste avant de décoller. On le sait, il est en route vers la Chine pour cette rencontre de 2 jours. La seule chose qui importe, dit-il, s'agissant de l'Iran, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Je ne pense qu'à une seule chose. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Et voilà tout.
Oui, alors il aurait pu se poser la question au moment où il a dénoncé le fameux accord qui n'était pas parfait, mais il avait le mérite d'exister. Aujourd'hui, on n'a plus rien sur la table.
L'accord sur la prolifération nucléaire.
Donc, ça va être très difficile de faire entrer le diable dans la boîte, si vous voulez. Une fois qu'il est sorti, et les Iraniens sont pas dupes. Donc, ils savent très bien que il faut conserver les compétences, et ça, ils les ont, qu'il faut cacher profondément ces stocks et tout ce qui leur permet de continuer à enrichir leur uranium.
Si la guerre active, je dirais, reprenait avec à nouveau des frappes, des bombardements, est-ce que Donald Trump pourrait se passer de devoir aller sur le sol?
Plus on avance et plus je pense que non. Là maintenant, on est devant une alternative qui est claire. Alors, je sais pas si elle est claire pour Donald Trump, mais elle le deviendra. C'est que soit, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'alternative que je développais, soit on laisse l'Iran se développer, continuer à tuer son propre peuple et à dominer cette région avec tout ce que ça peut comporter comme conséquence, soit on dit c'est fini, comme on l'a fait. Faut se souvenir quand même de l'histoire assez récente. En 1991, tout le monde une grande coalition s'est liguée pour dire à Saddam Hussein, non, tu n'as pas le droit d'envahir le Koweït. La situation est bien plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était.
Elle est bien plus grave et donc pouvons-nous ne rester effectivement que observateur à la marge, j'en parle y compris physiquement, géographiquement. Je voudrais qu'on dise un mot de notre fameux Charles de Gaulle. Il a voulu montrer, là encore, on parlait des deux sous-marins nucléaires que les Américains font savoir, dont les Américains font savoir qu'ils s'approchent eux aussi. Notre Charles de Gaulle, il est à la sortie donc de la mer Rouge, il n'est qu'à 24-48 heures de l'entrée du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il faut qu'il s'approche encore davantage? Quel est le message qu'il faut oser ou ne pas oser faire passer?
Mais s'approcher davantage, ça c'est l'affaire du travail des états-majors, de savoir quel est le meilleur positionnement. Là, il est peu ou prou dans le golfe d'Aden ou en mer d'Arabie. Il est bien, d'autant plus que...
C'est le bon endroit.
Oui, c'est le bon endroit pour une raison qui n'est pas mise en évidence, c'est qu'il est proche également de la mer Rouge et du détroit de Baden-Mandeb, qu'il a d'ailleurs franchi sans encombre, hein, faut le souligner. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette double alternative. Faut jamais l'oublier, il y a quand même deux perspectives, la mer Rouge d'un côté, le détroit d'Ormuz, avec le détroit de Baden-Mandeb et l'Ormuz. Si on peut stabiliser déjà, c'est peut-être une première étape, la mer Rouge et le détroit de Baben-Mandeb, on peut redonner confiance peut-être à... Alors ça va pas sauver le monde si vous voulez, mais c'est comme si on peut éviter aux pétroliers et autres de faire le tour par le Cap de Bonne-Espérance, c'est toujours ça de gagner, et ça donne une idée de la manière dont on pourrait stabiliser les choses. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je n'ai qu'un mot en tête, c'est il ne faut pas, qu'une phrase en tout cas, il ne faut pas subir. Subir, c'est terrible. Donc, il faut être proactif, d'une manière ou d'une autre, au plan diplomatique, sur le plan militaire. Je crois qu'il ne faut pas laisser l'Iran souffler. C'est pour ça que je ne suis pas du tout convaincu par le cessez-le-feu tel qu'il a été enclenché. Parce que ce cessez-le-feu, il a été déclaré unilatéralement par les Américains, si on regarde bien. Et pourquoi faire? Et c'est ça la question.
Au fond, vous dites, on a de manière coupable laissé les Iraniens souffler, oui, se réarmer, oui, et donc d'une certaine manière reprendre l'avantage.
Oui. Et surtout ressortir avec ce sentiment de victoire qu'ils affichent au quotidien. Je veux dire, quand ils s'en prennent par anticipation à la France ou aux alliés qui viennent pour l'instant dans le golfe d'Aden.
Vous évoquez évidemment les menaces faites par l'Iran. Seule la République islamique d'Iran peut assurer la sécurité dans ce détroit. Elle n'autorisera aucun pays à s'ingérer dans ce domaine. Voilà ce que dit le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, qui cite nommément la France et les États-Unis en disant qu'ils nous attaqueraient et qu'ils réagiraient si nous nous en mêlions, en quelque sorte.
À qui cite la France, c'est plutôt un honneur pour nous parce que, au moins, on bouge. On n'a pas décidé de faire la guerre à l'Iran, tout à moins à ce stade, mais en tout cas, on est les premiers à avoir non seulement assuré nos accords de défense, et ça, c'était une bonne chose, et que ça soit aux Émirats, c'est pas un hasard. Et de l'autre côté, d'essayer de faire comprendre à tous les pays, il y a 40 pays quand même qui se sont réunis hier, c'est pas rien, des ministres de la Défense de l'Union Européenne, qu'on ne peut plus subir. Ça veut pas dire qu'on est prêt à rentrer en guerre demain. Peut-être que ce sera le cas, mais montrer à l'Iran qu'il n'y a pas que les États-Unis.
Que ce sera le cas. C'est-à-dire que, général, vous dites ce matin, au fond, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'à un moment, peut-être qu'il faudra nous-mêmes entrer en guerre.
Ah, si vous voulez, vous vous souvenez de la phrase de Churchill, vous avez pas voulu la guerre et le déshonneur, et finalement vous avez eu et la guerre et le déshonneur. Il faudrait pas que ça nous arrive, ce genre de choses, parce que je reviens toujours à mon alternative. C'est mon sentiment et c'est ma conviction, vous le voyez bien, laisser l'Iran dominer cette partie du monde, s'imposer comme une puissance majeure avec tout ce que ça comporte, c'est quand même le pays qu'il veut détruire, qui est affiché dans sa constitution, qui allait détruire Israël. Comment voulez-vous qu'Israël soit insensible à cette déclaration, à cette idéologie? Bien sûr que l'Iran doit, il faut tout faire pour ramener l'Iran dans une sorte de non pas de paix, mais au moins de compréhension, de changement d'attitude. Et ça, pour moi, ça passe par un changement de régime et donc sans doute par la guerre.
Sans doute par la guerre, c'est quand même très fort ce que vous nous dites ce matin, alors qu'on a l'impression effectivement d'être à mi-chemin, ou en tout cas au bout de ce qui pouvait laisser penser qu'un cessez-le-feu se poursuive. Vous vous dites, il ne pourra pas ne pas, à un moment ou à un autre, y avoir une reprise, ou alors ce sera la défaite.
Bah oui, ça, c'est ce qu'on peut craindre. C'est que si on s'en sort, regardez l'affaire du nucléaire. Puisqu'on est parfois dans le monde virtuel, je pousse un petit peu le scénario. Regardez, mais finalement, il suffit que l'Iran donne un signe quelconque sur le nucléaire pour donner à Donald Trump un échappatoire, peut-être. Ça, c'est le nucléaire, c'est le sujet et le problème. Ça peut être la solution pour Donald Trump. Ça n'aura rien réglé parce que
pour pouvoir afficher une sorte de Graal.
Si l'Iran dit, ils ont fait des propositions d'ailleurs. C'est à peu près les seules propositions qu'ils ont faites.
Notamment le fait de donner les fameux 450 kilos d'uranium à une nation tierce. On évoque la question de la Russie, mais avec l'idée qu'ils puissent les récupérer si les négos n'aboutissent pas.
Personne n'est dupe, mais il n'y a pas vraiment d'alternative, parce que la mainmise qu'ils ont sur le détroit d'Hormuz, je peux vous dire que ça va être extrêmement difficile, sauf à faire la guerre, de l'enlever, de le reprendre. Là, ils ont compris qu'ils détenaient une partie du sort de l'économie mondiale.
La bataille navale qui a sévi il y a quelques jours, qui était pour le coup un vrai échange, pour vous paraît presque anecdotique. Ça n'a pas de fait rouvert le détroit.
Moi, j'avais, comme d'autres, identifié Hormuz comme étant un point stratégique dès l'entrée dans cette guerre. Et je continue à le penser, mais les faits malheureusement me donnent raison. La bataille d'Hormuz n'a pas eu lieu.
La bataille d'Hormuz n'a pas eu lieu.
N'a toujours pas eu lieu.
Est-ce que je peux le dire?
C'est-à-dire que la bataille d'Hormuz, elle fait partie de la guerre dans son ensemble. On peut pas dissocier l'un et l'autre. On ne peut pas éviter des sujets aussi stratégiques que le détroit d'Hormuz pour faire la guerre à l'Iran. C'est conceptuellement, c'est complètement incohérent.
Merci beaucoup, Général, pour vos lumières ce matin. Général Jean-Paul Paloméros, vous êtes l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant suprême de l'OTAN. Merci infiniment. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Et cette toute dernière information.
Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, il est là, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Le général Paloméro, c'était mon invité dans le face-à-face ce matin, et il est resté avec nous. Rebonjour, général.
Rebonjour à vous.
C'est le dernier quart de la femme voulait réagir. Hello, President.
Hey, bonjour, Pauline.
Yes.
Bonjour à notre invité italien, le général Paloméro Maramazzotti. Et salut à tous les cas contacts. Ouais. Bah, ils sont dans le fond en quarantaine, c'est les techniciens, ils sont crasseux, pratiquement. Normalement, on les met en régime confiné, mais là, il n'y a plus le risque, alors on les laisse sortir.
Bon, alors, président, la Chine.
Ouais, j'adore le chinois. Parce que moi, je suis presque chinois. Pour
ah oui?
Oui, eux, ils sont jaunes et moi, je suis orange.
Ah oui.
C'est pour ça que je m'entends bien avec les citrons. Je suis le même pareil que eux. On n'aime pas les démocrates, on n'aime pas les droits de l'homme, et on n'aime pas les élections, sauf quand je gagne.
Bon, allez, pourquoi ce voyage en Chine, alors?
Pour les accords commerciaux.
Ah oui, des terres rares.
Non, c'est les poupées chines.
Ah, les poupées chines.
Oui, c'est le même modèle que les filles de Chipstein. Sauf qu'elles, elles ne portent pas plainte. Oh. Voilà. Elles ont les trois mêmes qualités, les poupées chines, que Mélania. Elles ne parlent pas, elles ne vieillissent pas, et elles sont en plastique.
Merci beaucoup, monsieur Trump.
Le micro, celui-là, il marche, le micro.
Yeah, oui, ça marche.
Les deux micros, lequel micro, il marche.
Emmanuel Macron souhaitait également réagir justement à l'interview du général Paloméros.
Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire.
Non mais monsieur le président, vous n'allez pas encore à chaque fois chanter là. Bon, vous pensez toujours possible une solution diplomatique entre Donald Trump et Mojtaba Khamenei?
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Oui, allez, un peu sérieux monsieur le président, monsieur Macron, la France continue en coulisses d'œuvrer pour la paix?
Imagine all the people living through the...
Ça va devenir pénible, là, franchement, Emmanuel Macron.
Hey, les gars. Hey. Vous m'avez pas vu au Kenya, Apolline?
Si,
on respecte les gens.
Oui.
On respecte l'artiste.
Ok. Non, on a vu, il y avait du chahut dans la salle, et vous avez fait la leçon à tout le monde pour ramener le calme.
Mais voilà, quand quelqu'un parle, on écoute. On a du respect, on se tait. Vous pensez que moi, j'ai envie d'écouter les Français quand ils me parlent ? Non, mais je suis poli, je fais semblant de m'intéresser. Hein ? Comme vous, lors de l'interview du général Palomero.
Oh non, c'est pas vrai !
Merci, Apolline. Oh, on voyait, vous acquiescez de la tête. Mais j'ai bien senti que vous étiez ailleurs. Hein. Vous étiez en train de vous dire, faut que j'amène le grand au judo, la petite à la danse, et les huit autres à la crèche. Voilà. Avant de vous quitter, je voulais saluer. Oui, c'est ça, oui, les huit autres à la crèche. Je voulais, avant de vous quitter, chère Apolline de Malherbe.
Ne partez pas, monsieur le président.
Non, mais je voulais saluer amicalement le général.
Qui vous écoute?
Paloméros, l'autre.
Ah, Paloméros.
Le chef
d'état. Parce qu'on a deux généraux dans ce studio.
Le chef d'état-major de BFM, la brigade foireuse de la matinale. Comment s'appelle-t-il déjà?
Le général Pélisse-Randy. Bah, ça tombe bien, justement, il est avec nous. Bonjour, général.
Bonjour, Apolline.
Général? Général?
Il arrive.
Général? Où êtes-vous? Vous étiez là. Oui, il sort de la table. Bonjour, mon général.
Oui, mes respects, Apolline. Je salue. Et salut, général Palomiros.
Oui.
Tous les deux, vous savez, on est des générales, on est fait du même bois. Hein, lui, c'est la cajou, moi, c'est la cagette. Ce matin, je suis venu vous parler de l'antivirus. Ça fait peur.
Ça fait peur. C'est vous qui allez nous parler de l'antivirus? Vous êtes pas médecin, général?
Je suis pas médecin. Non, mais parlons aux gens, dit médecin.
Ah, oui.
Nous, les générales, avec la guerre, on était les vedettes sur les plateaux. Ah, ouais. Tout le monde le sait. Et là, les médecins avec le virus, ils ont voulu nous piquer la vedette. Mais moi, on me paye pas ma place comme ça parce que moi, je suis généraliste. Généraliste. Moi, je peux parler de tout. Je suis tout terrain. Je peux parler de médecine parce que j'ai mon brevet de secourisme. Voilà. Et en plus, vous savez que le virus, il a démarré sur un bateau. Et le bateau, c'est mon domaine, puisque vous savez, je suis général de l'armée de terre.
Alors, parlez-moi de cette épidémie.
Non, je ne vais pas pour vous parler de cette épidémie, je vais déjà vous en parler de une seule.
Non, mais
Grand 1, l'épidémie.
Ah, l'épidémie.
Quoi que c'est comme épidémie. Oui, parce que quand il n'y a qu'une seule, on dit une épidémie, et c'est vrai que quand il y en a plusieurs, là, on dit d'épidémie.
Ah, oui.
On dit, on peut parler d'épidémie. Voilà. Alors. Ne pas confondre l'épidémie avec la pandémie. La pandémie, c'est une maladie très contagieuse où on meurt par arme à feu. Pandémie.
Pandémie, bien sûr.
Oui, j'ai vu ça sur Wikipédia. Alors, je vous écoute.
Oui, on le sait, donc ça se soigne à l'hôpital.
À l'hôpital. Non, pas à n'importe quel hôpital.
Ah.
Oui, parce que l'antivirus, ça se transmet par les rats et les souris.
Oui.
Et c'est quoi l'ennemi de la souris? C'est le chat.
Ah, bien sûr,
c'est pour ça
bien sûr,
qu'on les amène tous à l'hôpital biche.
Ah. Ouais.
Il y en a deux. Ah. Il y a au moins deux chats.
Un chat pour les rats et un chat pour les souris.
Comment on se protège alors, général?
J'y viens. Comment on se protège?
Comment
pour la guerre, vous savez qu'on se protège avec un cax.
Bien sûr, voilà. Vous l'avez d'ailleurs.
Mais pour le virus, il ne faut pas un cax. Il faut, d'ailleurs, je peux sortir mon...
Oui, vous pouvez enlever votre cax. Vous êtes bien.
Pour un virus, il ne faut pas un cax, il faut un masque. Il y a un masque de couleur camouflage.
Il a un masque
de camouflage. C'est pour pas que le virus, il vous voit. Parce que le virus a des très bons yeux.
Ah oui.
Voilà. Alors, le mieux pour se protéger, c'est quand même la distanciation sociale. Le plus dur dans la distanciation sociale, c'est de le prononcer.
Ah oui.
Et puis, c'est là où je sors ma fameuse baguette de général, la baguette tradie, la pélisse tradie.
La pélisse tradie.
Ça, c'est bien. Voilà,
vous sortez votre canapé.
Vous pouvez dire bonjour à monsieur Bureau, là-bas, comme ça. On peut dire au sergent de chiffres, au général... Également, au général Palomeros, tout le monde. On peut saluer Neumann, on peut saluer tout le monde.
Et donc,
parce qu'on n'est pas contact.
C'est bien.
Parce que le contact, c'est pas bon. Sauf quand on met le bouton rouge sur le fil rouge et le bouton vert sur le fil vert. Et là, l'épidémie, elle explose.
On en était au grand 8, je crois.
Pardon ? Oui, le grand 8. Alors, le grand 8, comment détecter si vous êtes positif ? Alors, c'est très simple. Vous prenez votre baguette de général, il faut faire un test PCR. On prend la baguette de général. On met un petit coton au bout et il faut trouver la... Faut faire avec ce bel joli coton-tige un test PCR.
D'accord.
Mais à qui on fait le test PCR? Et là, je sens qu'il y a un stress dans le studio.
Ça va tomber, vous allez faire un test PCR en direct,
à qui on va trouver la narine.
Aïe, aïe,
ils sont solidaires. C'est la, les gars de la narine. Et là, moi, je désigne le plus gradé, le maréchal, le marshal des logis. Marshall. Voilà, vous respirez un grand coup, maréchal du Yogi Marshall. On ferme les yeux, c'est parti.
Merci Nicolas. Face à Cantu, que l'on trouve dès demain, 8h50 sur RMC à tout moment en podcast.